Nous avons étudié mercredi dernier la construction des efforts intérieurs dans un milieu continu modélisé de façon unidimensionnelle. Nous avons découvert que l'espace des solutions présentait l'intérêt d'être un espace de dimension finie. Nous avons introduit la notion de degré d'hyperstaticité. Mais nous nous sommes rendus compte en même temps donc qu'il n'était pas en général possible de déterminer les efforts intérieurs dans un tel milieu, malgré sa simplicité, sans la donnée d'un comportement mécanique. Alors c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui. On va étudier la réponse des milieux curvilignes, c'est-à-dire des systèmes modélisés de façon unidimensionnelle, de manière continue unidimensionnelle, dans l'hypothèse d'un comportement élastique linéaire. Voilà. Donc la problématique qui va nous occuper est la suivante. Nous avons appris à passer de la donnée d'un chargement extérieur, c'est-à-dire par exemple des forces réparties ou concentrées, des moments répartis ou concentrés, donc de passer des efforts extérieurs aux efforts intérieurs, dont on a vu qu'ils étaient modélisés par un champ de torseur, c'est-à-dire la donnée en tout point de l'arc d'un objet qui est défini à partir de deux vecteurs. Un vecteur grand X qui représente la résultante des efforts intérieurs et un vecteur gamma qui représente le moment. Nous avons vu comment les connecter aux caractéristiques du chargement extérieur. La question que nous nous poserons aujourd'hui est quelle est la déformée qui résulte du chargement en question. D'accord? Alors, ça va se faire en deux temps. D'une part, on va répondre à cette question au niveau local. C'est la problématique du comportement mécanique. On va faire exactement comme on avait fait dans le cas du continu tridimensionnel. Cas du continu tridimensionnel, on avait dit je prends un élément de matière, je lui applique un certain état de contrainte, quelle va être la déformation qui en résulte, ou au contraire, si je lui impose une déformation, quels sont les efforts intérieurs qui sont mobilisés. Donc ça, c'est une transformation géométrique élémentaire qui se joue au niveau local. On va faire exactement pareil, d'accord? Donc on va commencer par essayer de caractériser ce qui se passe dans l'élément de matière. Alors vous savez que dans le cas du continu dimensionnel, l'élément de matière, ben, c'est un segment de longueur infinitésimale qui représente en fait la matière qui est contenue entre deux sections droites très proches l'une de l'autre. D'accord? Donc on répond d'abord à la question locale et ensuite, par une technique appropriée d'intégration, on verra comment déterminer cette ligne pointillée rouge, c'est-à-dire la transformée de mon arc. Voilà pour la problématique. Alors, on aura besoin d'un tout petit peu de géométrie différentielle. Donc, je raconte cette histoire très vite et puis dans un contexte en fait très agréable, hein, qui est le contexte plan. Si je considère un arc plan, je vais avoir besoin de parler de sa courbure. Donc, qu'est-ce que c'est que la courbure d'un arc plan? C'est des choses qui sont plus au programme des classes préparatoires maintenant. Donc, si je me donne mon arc ici, comme je le propose, c'est-à-dire en cartésienne, dans le plan, je me donne donc l'ordonnée y comme une fonction petit f de x de l'abscisse. D'accord? Alors, je suis capable, ça vous le savez, de calculer la direction de la tangente à mon arc. J'obtiens ça tout simplement en dérivant OM par rapport à X. Donc, ça me donnait EX plus F' de X, EY. Et donc, ça me donne le vecteur tangent, là, ce bazar ici, là, d'accord, qui est incliné de θ par rapport à l'axe des X. Et vous savez que tangent θ, c'est évidemment F' de X. D'accord? Alors, quand je vais passer de X à X plus DX, ben, ma tangente, elle va tourner de dθ. D'accord? Alors si je trace au point d'abscisse x, au point d'abscisse x plus dx, donc les normales à mon arc, c'est-à-dire les vecteurs qui sont perpendiculaires aux tangentes, d'accord? Ben, ils se rejoignent en un certain point, d'accord? Et puis ces deux droites, ben, elles forment un angle évidemment égal à dθ. Et donc si j'étais dans le cas d'un cercle, les choses seraient très simples parce que la longueur parcouru sur l'arc entre les points d'abscisse x et x plus dx, ben, ce serait évidemment le rayon, d'accord, multiplié par dθ. Ben, c'est ce qu'on prend en fait comme définition du rayon de courbure, d'accord. Le rayon de courbure noté ici ρ, ben, c'est le quotient ds sur dθ, d'accord. Et la courbure, eh ben, c'est l'inverse du rayon de courbure. Donc dans le cas d'un arc plan, les choses sont extrêmement simples, surtout en cartésienne orthonormée. Alors comment est-ce que je calcule cette quantité? Ben, c'est facile. Ah oui, il faut déjà que je vous rappelle comment on calcule, mais ça normalement c'est au programme, hein. Comment est-ce que je calcule l'élément de longueur ds, la longueur de l'arc, d'accord, entre les points d'abscisse x et x plus dx? Ben, il suffit de prendre la norme de ce truc-là, d'accord? Si je prends la norme de ce truc-là, je vais le faire au tableau. Donc j'ai quelque chose de la façon suivante. J'ai dm sur dx qui est égal à ex plus f' de x ey. Ben ça, si je prends la norme de cette relation-là, je vais trouver que ds sur dx, c'est égal à 1 plus f' de x au carré à la puissance 1,5. D'accord ? Donc là, j'ai calculé mon ds en fonction de dx. Okay ? Et maintenant, je différencie cette relation-là, c'est-à-dire que je vais trouver un machin du genre... Je vais trouver quelque chose du genre 1 plus tangente carrée de θ, c'est-à-dire f' de x au carré. D'accord ? Dθ est égal à f seconde de x dx. Ok. Bon, donc j'ai plus qu'à faire le quotient de ces choses-là et je vais trouver sans peine donc ma courbure se calcule à partir de la dérivée seconde et de la dérivée première de la fonction petit f qui sert à définir mon arc. Voilà. Alors nous, on va se trouver souvent dans un cas très simple, c'est qu'on va partir d'un tronçon rectiligne, d'accord ? Typiquement, par exemple, l'axe des abscisses. Et la fonction f de x, ça va représenter le déplacement normal de la section droite par rapport à cette chose-là. Et on va voir que dans le cadre des transformations infinitésimales, eh bien, on va imposer à f' de x d'être un infiniment petit, ce qui va nous permettre de linéariser cette affaire-là. Et pour nous, donc, dans l'hypothèse où justement donc l'angle θ est petit, c'est-à-dire où f' de x est infinitésimal, eh bien, notre courbure, ce sera tout simplement la dérivée seconde de la fonction y égale f de x, d'accord ? Donc ça, c'est un résultat que je vous demande de mémoriser pour la suite, d'accord ? Calcul de la courbure d'un arc donné en cartésienne par y égale f de x, sous réserve que f' de x soit un infiniment petit, c'est-à-dire en fait que ben, les tangentes restent proches du vecteur ex, de l'axe des x initial, d'accord ? À ce moment-là, la courbure, c'est juste la dérivée seconde, ok ? Donc, maintenant, passons à la description de la transformation géométrique. J'ai dit dans ma problématique que le but de la manœuvre est de déterminer la transformation géométrique. Comment est-ce qu'on va caractériser la transformation géométrique? La règle du jeu est exactement la même que pour les efforts intérieurs. Souvenez, on a dit, maintenant, notre objet est décrit de manière unidimensionnelle. Donc, la seule chose qu'on soit capable de faire quand on décrit l'espace, eh ben, c'est se promener sur l'arc. C'est le seul paramètre géométrique qui est à notre disposition, c'est l'abscisse curviligne. Donc, il va falloir caractériser tout ce qui concerne la transformation géométrique simplement avec l'abscisse curviligne. Ça veut dire en particulier qu'on renonce à décrire ce qui se passe à l'intérieur des sections droites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais raconter les choses assez vite en fait, c'est qu'on va se donner le mouvement moyen de la section qui est située au point d'abscisse curviligne grand S dans la configuration initiale. Et ce mouvement moyen, on va le caractériser par un vecteur de translation et un vecteur de rotation. Alors, moyen en quel sens ? Ben, ce serait un petit peu long. Vous devinez ce que ça veut dire. C'est un petit peu long à écrire, donc je ne vais pas le faire. D'accord ? Mais avec le travail qu'on a fait lundi après-midi en petite classe, vous voyez très bien de quoi il s'agit, au moins pour une pièce massive modélisée par un cylindre. On a tous fait le calcul tridimensionnel de la flexion simple, par exemple. Eh bien, vous avez vu ce qui arrive à une section droite. Cette section droite, elle subit un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Mais pas seulement ça. En fait, elle se déforme, bien sûr, à l'intérieur de ce mouvement. Se superpose à ce mouvement de corrigide, évidemment, une déformation dans le plan de la section droite. Celui-là, je suis pas capable d'en parler. D'accord ? Je suis pas capable d'en parler dans le contexte de la modélisation unidimensionnelle. En revanche, ce qu'on a fait lundi après-midi prouve que c'est sérieux de considérer pour chaque section de ma poutre modélisée de manière unidimensionnelle, de considérer donc une transformation caractérisée par un vecteur déplacement et un vecteur rotation. Alors pour le moment, ces gens-là se connaissent pas, hein, c'est-à-dire que ben, ici j'ai trois scalaires pour caractériser le déplacement, et ici j'ai trois scalaires pour caractériser la rotation. Voilà. Ceci étant, on va illustrer cette affaire-là dans le cadre de quelques petits modèles qu'on a rencontrés la dernière fois à la fin de l'amphi et qui nous servent à décrire les appareils d'appui. D'accord ? Ce sera une façon de concrétiser un petit peu cette caractérisation de la transformation géométrique pour certaines sections très importantes de la structure qui sont les appuis. Alors on va utiliser le même petit formalisme que la dernière fois. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait introduit l'ensemble IR, le sous-ensemble IR de XYZ et le sous-ensemble IH de XYZ qui avait la propriété que si un indice est dans IR, ça veut dire que la composante correspondante de la réaction d'appui est connue. Si un indice est dans IH, c'est-à-dire que la composante correspondante du moment exercé par l'appui sur la structure est connue. On va faire pareil au profit des deux vecteurs qu'on vient d'introduire, c'est-à-dire le déplacement xi et la rotation θ. Ben, on dira que si un indice est dans xi, ça veut dire que je connais xi. Si un indice est dans θ, c'est que je connais la projection correspondante de θ. Alors, la première chose à remarquer, c'est que, en fait, les ensembles xi et ir d'un côté, iθ et ih de l'autre côté, constituent tous les deux, des partitions de l'ensemble des indices x, y, z. Bon, ça c'est une façon mathématique de dire quelque chose de très simple, qui est de dire à peu près la même chose que ce qu'on racontait au profit des parties STI et SXI de la frontière d'un système matériel, d'accord. Vous vous souvenez qu'on disait que pour toute valeur de l'indice I, x, y, z, d'accord, STI et SXI constituent des partitions de la frontière du système. Là, on va dire que XI et IR constituent une partition de XYZ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacune des trois directions de l'espace, j'attends une information. Elle devra porter sur XI ou sur R, et ce, de façon exclusive. Voilà. Et puis, je dis exactement la même chose pour θ et h, c'est-à-dire pour chacune des trois directions de l'espace, j'attends une information qui portera soit sur la composante de la rotation, soit sur la composante du moment pour la direction considérée, mais évidemment, jamais deux informations pour la même direction. OK? Je peux pas à la fois dire quelle est la force que j'applique et quel est le déplacement qui en résulte. D'accord? Faut choisir. Voilà. Donc, alors, pour nos appareils d'appui, qu'est-ce que ça nous donne? Si on reprend l'appui fixe articulé, on avait vu qu'on connaît pas, on connaît le moment, d'accord? Cet appareil exerce un moment nul sur la section correspondante de la structure. Ça veut dire que je connais pas la rotation qui résulte de ce moment nul, d'accord? Donc, iθ, c'est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que je connais IH. IH, c'est XYZ. À l'inverse, le déplacement est fixé. Il est égal à 0. Donc, je connais les trois composantes de xi. Elles sont toutes les trois égales à 0. Évidemment, en contrepartie, je connais pas la résultante des forces qu'il faut appliquer, enfin, qu'exercera l'appui sur la structure pour assurer la liaison que le déplacement est nul. Voilà, un genre de choses qu'il faut bien maîtriser. Bon, si l'appui est mobile comme ça, ça veut dire cette fois-ci que c'est simplement le déplacement sur la direction verticale qui est prescrit. D'accord, je connais pas les deux autres, ok. C'est-à-dire que je connais ni xi x ni xi z avec les notations de ce petit croquis, d'accord. En revanche, bien sûr, je connais les composantes de la réaction selon x et selon z. Ces deux composantes valent 0. Okay. Et comme elles valent 0, après la pièce, elle fait ce qu'elle veut, puis elle peut bouger. Okay. Bon, vous connaissez ce genre de choses, vous avez vu ça en sciences industrielles. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a l'encastrement. Alors, l'encastrement, c'est la situation où on avait dit, on connaît rien sur les efforts appliqués, mais en fait, on connaît tout de la cinématique. Je viens de dire que la cinématique, c'est un déplacement et une rotation. Là, le déplacement vaut 0 pour la section considérée, la rotation vaut 0 pour la section considérée. Voilà. Alors, maintenant, on va rétrécir un petit peu le cas d'hypothèse. Pourquoi? Non pas parce qu'on sait pas faire, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et parce que ceux d'entre vous qui continueront à faire de la mécanique en 2A auront le bénéfice de suivre des cours de spécialité qui leur permettront d'aller plus loin. D'accord? Donc, nous, on va se limiter à un cadre particulier qui est celui des structures planes, déjà. OK? Structures planes, c'est-à-dire que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas être capable de considérer ce genre de jolis ouvrages, d'accord? Alors, pour ceux qui connaissent le Finistère, ils ont reconnu Le pont de Térénez, d'accord, c'est un endroit qui est absolument fabuleux. Là, c'est la phase de construction, d'accord. On voit une partie de l'ouvrage et puis l'autre partie. Puis un beau jour, ben, ils ont réussi à raccorder les deux bouts parce qu'ils sont bons, les ingénieurs qui ont fait ça. Alors, ce pont, il a été construit très récemment, en fait, hein, puisqu'il a été achevé, je crois, en 2011. Et il est toujours, je crois, record du monde de portée courbe non soutenue. D'accord? Donc c'est un pont haubané, comme vous le voyez, et il est record du monde, hein, je ne sais plus quelle est la longueur. Par contre, ce que je sais, c'est que de part et d'autre, alors ça c'est un pont qui est sur l'Aulne, d'accord, qui se jette un peu plus loin dans la rade de Brest, au sud de la rade de Brest. Et puis vous avez là, alors vous avez bon, je vais pas vous raconter les trucs de carte postale non plus, mais enfin, il y a du VTT terrible à faire dans le coin. Et puis vous pouvez rouler donc sur deux couloirs qui ont été aménagés de part et d'autre du pont, et puis rejoindre donc l'autre rive. C'est bon. Si vous avez le temps, allez faire un tour là-bas. Malheureusement, on pourra pas calculer cet ouvrage parce que c'est un ouvrage courbe, donc c'est pas une structure plane, d'accord? Et ben il faudra attendre un petit peu pour considérer ce genre de problème. La bonne nouvelle en revanche, c'est qu'on va être capable de calculer celui-là, d'accord? Alors celui-là, en fait, il y en a deux, hein, si vous voulez regarder, on va faire un peu de carte postale, mais pas très longtemps. Ouais, donc ça c'est la rade de Brest. Vous êtes en train de regarder vers les États-Unis, d'accord? Et en fait, vous voyez deux ponts. Le premier pont, il a été achevé en 1994, c'est donc le qu'on appelle le pont de l'Iroise, qui est sur les Lornes là. Et donc c'est un magnifique pont haubané qui, lui, a été au moment de sa construction record du monde de portée, puisque là entre les deux mâts, vous avez 400 mètres, d'accord? Et puis d'une rive à l'autre, je crois qu'on n'est pas loin du kilomètre. Okay? Et puis en arrière, bah, il y a un pont qui existait avant, qui s'appelle le pont Albert-Loup, pour ceux qui connaissent Brest. Et si vous allez à Brest, et bien, vous n'oubliez pas vos runnings, parce que vous pouvez faire le plus beau 400 de votre carrière, parce que ce deuxième pont-là, qui est en arrière-plan, et bien, il est complètement laissé à la disposition des piétons et des cyclistes. Donc c'est absolument fabuleux. Il ne faut pas oublier. Voilà, bon, alors lui, on va pouvoir le traiter parce que c'est bien une structure plane. Et puis, il est constitué de tronçons, enfin, on peut considérer qu'il est considéré de tronçons rectilignes. Et c'est dans ce cadre que nous allons travailler. Donc, je vais préciser un tout petit peu, j'ai arrêté les délires là, je vais préciser un tout petit peu donc le cadre dans lequel on va travailler, je viens de le dire, sur le plan de la géométrie, la structure est plane et les tronçons seront rectilignes. Bon, ça, c'est une hypothèse qui est un petit peu regrettable, mais qui est lié au fait que bon, vous faites plus trop de géométrie différentielle, donc ce serait un petit peu technique de mettre des tronçons courbes. C'est pas difficile, mais ça prendrait un peu de temps. Voilà. Alors, on va introduire maintenant le concept d'arc-plan chargé dans son plan. Arc-plan, je viens de dire ce que c'est. Maintenant, chargé dans son plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les efforts extérieurs appliqués à la structure possèdent la propriété suivante. La résultante est dans le plan. Qui définit la géométrie de la structure, et le moment est perpendiculaire au plan en question. D'accord? Alors, par les règles de calcul que nous avons vues la dernière fois, pour passer des efforts extérieurs aux efforts intérieurs, bah, il est presque immédiat de voir que si tous les efforts extérieurs possèdent cette propriété-là, bah, le torseur des efforts intérieurs la possède aussi. Ça voudra dire que, bah, en particulier, la résultante X est dans le plan de la structure. D'accord? Donc, en particulier, le vecteur effort tranchant, maintenant, est forcément collinéaire à la normale à la structure. D'accord? C'est donc, on peut se contenter de le caractériser par un scalaire, un petit peu comme je le fais sur le dessin. Donc, on va se donner une convention pour même pouvoir fixer son signe, qui pour le moment n'avait pas de sens, puisque c'était un vecteur. D'accord? On va orienter notre structure. Donc ça nous donne le vecteur T. On va orienter l'espace. Ça, c'est la normale au plan de la figure. Donc on connaît les vecteurs T et EZ. Et on va choisir N de façon à ce que T, N, EZ soient directs. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ce choix, cette convention, que T, N, EZ est direct, je rappelle, T tangente à la structure, enfin c'est donc la direction du segment considéré, puisque c'est un assemblage de tronçons rectilignes, d'accord? J'ai défini la normale, l'orientation de la normale au plan, et donc maintenant N est défini sans ambiguïté, de sorte que bah, l'effort tranchant, maintenant, en signe, est un scalaire défini sans ambiguïté, exactement comme l'effort normal. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la résultante. Donc on est passé de 3 à 2 champs scalaires pour caractériser le champ grand X, d'accord. Et pour gamma, ben, on gagne encore plus, parce qu'en fait, ben, puisque le moment est perpendiculaire au plan de la figure, ben, évidemment, il est caractérisé par un unique scalaire. Et s'il est perpendiculaire au plan de la figure, c'est qu'il est forcément dans la section droite, donc c'est un moment de flexion. Ce qui veut dire que, ben, évidemment, on écarte dans ce cadre d'étude la situation des les structures qui comporteraient des zones en torsion. Voilà. Donc, bah, le vecteur moment de flexion est, comme le vecteur est fort en champ, devenu un scalaire, et le signe de grand M est maintenant déterminé sans ambiguïté, et il est extrêmement important. Hein. On a eu l'occasion de parler peut-être un petit peu de ferraillage lundi après-midi. On sait très bien que le signe de M va être extrêmement important. Est-ce que c'est la fibre supérieure ou la fibre inférieure de la structure qui est comprimée, qui est tendue? Vous savez que pour l'ingénieur qui dimensionne une structure en béton, par exemple, ben, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes de se tromper sur le signe de M. Il vaut mieux éviter. Voilà. Alors ça, c'était pour les efforts. Maintenant, regardons la cinématique. Ben, c'est pareil. On va admettre, c'est pas tout à fait trivial. Hein, il faut faire quelques petites hypothèses, mais j'ai pas le temps de les raconter. On va admettre que la cinématique est plane également. C'est-à-dire que, ben, je viens de dire que la cinématique est caractérisée pour toute section par un vecteur déplacement et un vecteur rotation. Ben, le vecteur déplacement sera dans le plan et le vecteur rotation sera perpendiculaire au plan, collinaire à EZ. D'accord? Donc en fait, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 6 de voie 3 scalaires pour caractériser la transformation géométrique d'une section dans le cadre unidimensionnel, d'accord, eh ben, j'en aurai que 3. J'aurai 2 composantes du déplacement, une composante de la rotation. Voilà. Donc on aura un xi-t, qui va être évidemment la composante de xi selon la tangente orientée, et un xi-n selon n, dont le sens maintenant, vous l'avez compris, est déterminé sans ambiguïté. Et puis on aura un scalaire θ pour la rotation. Pour le moment, xi-t, xi-n et θ ne se connaissent pas. D'accord? Ils se connaissent pas. Hein, c'est-à-dire que à ce stade, et pour un certain nombre de structures, et pour certaines théories extrêmement importantes qu'on n'aura pas le temps d'aborder, eh ben θ est défini. Il est défini et il est indépendant de xi. Ok. Donc vous devez bien comprendre ça. Xi définit la translation de la section droite, tandis que θ définit sa rotation. Et a priori, je ne peux pas calculer le deuxième à partir du premier. Mais on a vu tous, lundi après-midi, un cadre particulier, extrêmement important, qui est celui des structures massives modélisées par une loi de comportement élastique linéaire isotrope. On a vu qu'à ce moment-là, il y avait une très jolie propriété, c'est que ben, la tangente à la ligne directrice, bien sûr, lors du mécanisme de flexion, va tourner, d'accord, et ben, que la section droite va tourner juste pareil. Donc en fait, on s'est rendu compte que d'un point de vue tridimensionnel, il était possible de démontrer que je pouvais calculer θ à partir de xi. D'accord? Alors, je vais préciser cette affaire-là dans quelques instants, mais on a tous vu ça, puisqu'on a vu que la section droite tourne comme la tangente à la ligne directrice. D'accord? Donc, au lieu que xi et θ soient indépendants, je peux calculer θ à partir de xi. Comment? On va le préciser dans une toute petite seconde. D'accord? Bah, quand cette propriété a lieu, on dit que la cinématique réalise la condition de Navier-Bernoulli. Et ça donne aussi le nom de la théorie des poutres que je vais vous présenter. C'est une théorie de Navier-Bernoulli. Ok? C'est pas une théorie complètement générale et on peut exhiber des structures non pas farfelues, hein, mais même un bête fléau de grue, d'accord? Ben, un bête fléau de grue, ça peut être modélisé comme une poutre, hein. On sait, il y a bien une dimension géométrique qui est prépondérante devant les deux autres, mais c'est pas une pièce massive. Eh ben, on peut montrer que la condition de Navier-Bernoulli peut très bien ne pas s'être satisfaite. D'accord? Voilà. Alors on va avancer un tout petit peu. Bien sûr, on se placera dans le cadre des transformations infinitésimales. J'ai déjà dit un peu à quoi ça pouvait me servir pour le calcul de la courbure. C'est-à-dire qu'on supposera bah, que le gradient du déplacement, donc ça veut dire ici simplement les dérivées de xi-t et xi-n sont petites, et puis la rotation, θ, qui pour le moment vit indépendamment de xi, encore que pour quelques minutes, bah, θ lui aussi il est petit. D'accord? Les rotations ont lieu, mais elles sont petites. Voilà le cadre des transformations infinitésimales. Alors, un petit exemple en statique pour fixer les idées de ce que ça peut nous donner. Voilà, ben voilà l'exemple même d'une structure plane chargée dans son plan. Elle est toute bête, hein. C'est simplement une poutre qui est encastrée à son extrémité gauche, orientée de la gauche vers la droite, et puis je mets une force VF à l'extrémité droite de ma poutre, d'accord. Alors, ben, il faut commencer, j'ai dit que T était orienté selon l'axe des X, ben, si je choisis comme d'habitude la normale sortante pour définir le plan de la figure, la normale au plan de la figure, ben, évidemment, N à ce moment-là, c'est EY. D'accord. Donc le moment de flexion sans ambiguïté, puisque Z c'est la normale sortante, bah, ça va être moins F facteur de L moins X, hein, la force fois le bras de levier, et puis évidemment le moment est rétrograde par rapport à la définition que je viens de donner de Z. Et puis pour ce qui est de V, bah, vous voyez bien que V, le vecteur effort tranchant est égal à moins F EY, d'accord. Et comme N est égal à Y, ça veut dire que V est égal à moins F. Donc vous voyez bien que j'ai qu'une difficulté à déterminer le signe de M et celui de V. Ils sont déterminés à cause de l'orientation conventionnelle que je me suis donnée pour petit n. Évidemment, dans cette affaire-là, il n'y a pas d'effort normal. Voilà. Alors, pour ce qui est des conditions cinématiques, ici, ben, j'ai un encastrement. Alors, on a dit tout à l'heure, pas de rotation, pas de translation. Ben, pas de rotation, ça voudra dire que θ est nul, simplement le scalaire θ, le seul qui est nécessaire pour caractériser, dans le cas des structures planes chargées dans leur plan, le vecteur rotation. Puis, de la même manière, il n'y a pas lieu d'évoquer un xz, hein, xx et xy sont tous les deux égaux à zéro, parce que cet encastrement interdit la translation. Ok. Alors maintenant, on va établir un résultat qui, pour le moment encore général, c'est-à-dire en dehors de la condition de Navier-Bernoulli que j'avais annoncée et qui est en fait la généralisation, ou plus exactement la formulation, c'est pas une généralisation, mais la formulation du théorème des travaux virtuels que nous connaissons bien dans le contexte tridimensionnel. On va regarder comment ce théorème des travaux virtuels se formule dans le cas des structures planes chargées dans leur plan. Alors on avait vu qu'on avait deux équations de la statique, une qui portait sur le vecteur x, c'était un machin qui s'écrivait dx sur ds plus vecteur f égale à 0, petit f, vous vous souvenez, c'était le vecteur densité linéique des forces réparties. Puis on avait une deuxième équation qui était de la forme d gamma sur ds plus m plus t vectoriel x égale à 0. J'ai dit surtout ces équations, ne les utilisez pas pour faire la statique, d'accord? Parce qu'en fait, on les avait obtenues par dérivation des règles de calcul qu'on s'était données pour x et gamma, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre de choses. Alors, bien sûr, ces choses-là sont reconduites. Les deux premières équations, hein, dn sur ds plus ft égale 0, dv sur ds plus fn égale 0, ne sont autres. Vous les aurez reconnues que les deux projections sur la tangente et la normale de l'équation dx sur ds plus f égale à 0. Okay. Et puis, la troisième équation, donc ça, c'est une équation vectorielle, d'accord. Les deux premières lignes, c'est une équation vectorielle. Et puis, la troisième ligne, bah, c'est d gamma sur ds plus m plus t vectoriel x égale à 0. Puis, on voit que ces deux équations sont couplées. Hein. On voit qu'on peut... On ne peut pas résoudre la dernière si on ne connaît pas l'effort tranchant. Ben, ce sont des choses qu'on a déjà eu l'occasion de commenter mercredi dernier. Alors, on va les dualiser. Comment on dualise? Ben, exactement comme divergence de sigma plus ref égale à zéro. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, je prends un mouvement virtuel, par exemple, un champ de déplacement virtuel. Je fais le scalaire avec l'équation div de sigma plus ref égale à zéro. J'intègre sur toute la structure et après, je me livre à des technique d'intégration par partie qui faisait appel à la formule de Green. Hein, je reviens pas sur genre. On fait exactement pareil, sauf que là, on n'aura même pas besoin de la formule de Green. Ça va être une bête intégration par partie sur un intervalle de grand R. Donc, on sait faire ça depuis qu'on est tout petit. D'accord? Donc, on va dualiser. Alors, dualiser, bah, ça veut dire qu'on va multiplier la projection sur la tangente de l'équation de la statique relative à grand X par par la composante tangentielle du déplacement virtuel. La composante normale de l'équation d'équilibre en grand X, on va la multiplier par la composante normale d'un déplacement virtuel. Et on va multiplier l'équation en moment par quelque chose auquel on donne le sens de rotation virtuelle. Bien sûr, c'est moi qui appelle xi'T, xi'N, θ', des déplacements ou des rotations. Ça pourrait être tout simplement des fonctions test, hein, si j'utilisais un langage de mathématicien. Ok. Après, j'intègre, d'accord. Donc j'intègre sur ma structure, donc je me limite ici typiquement à un arc, mais évidemment c'est valable si votre structure est constituée d'un nombre fini d'arcs, d'accord? Et enfin, ben, j'intègre par partie. Alors évidemment, l'intégration par partie, elle porte sur le couple n xi'T. Alors évidemment, surtout le prime, ici, ça veut dire virtuel. Ça ne veut pas dire dérivé par rapport à quoi que ce soit. D'accord? Hein, j'ai pas 36 lettres, 36 choses. Donc ça, le xi prime, c'est surtout pas une dérivée. Theta prime, c'est surtout pas une dérivée. D'accord? Ça veut juste dire virtuel pour le moment. Ça veut dire pour le moment que nvm d'un côté et xi prime t, xi prime n et theta prime se connaissent pas. Hein. Ils peuvent se connaître dans certains cas. À ce moment-là, vous savez très bien qu'on trouve un travail virtuel de choses réelles. On a déjà eu l'occasion de commenter ce genre de choses et on va le retrouver. Mais là, pour le moment, ils ne se connaissent pas. J'intègre par partie ce truc-là. Enfin, dans les trois situations, j'intègre par partie. Et ça me donne donc tout simplement, pour le moment, c'est juste des maths. Hein. Donc, on a le terme de bord sur le couple nxité, le terme, alors j'ai oublié les primes là d'ailleurs, le terme de bord sur vxin et puis le terme de bord sur mθ'. OK? Voilà. Bah, pour le moment, on voit peut-être pas trop ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, si on se souvient néanmoins des conditions aux limites qu'on a vues la dernière fois sur un arc, vous vous souvenez, on a dit le vecteur grand X à l'extrémité aval, il est égal à la réaction extrémité, RB, et puis le vecteur grand X à l'extrémité amont, A, est égal à moins grand RA. Vous vous souvenez? Puis on avait dit pareil pour gamma. Gamma A, c'est moins HA. Gamma B, c'est plus HB. Ben, on va utiliser ça ici, d'accord, pour calculer les termes tout intégrés et pour trouver leur sens. Ben, en fait, il est tout simple. Hein. Donc, si je précise ces choses-là, et puis si je pratique ces relations dans le contexte des arcs plans chargés dans leur plan, ben, je vais trouver, en fait, ici, par exemple, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour répondre à la question et interpréter donc ces trois crochets à prendre entre A et B comme le travail virtuel des forces extérieures aux extrémités ou des moments extérieurs aux extrémités. Donc je réécris la même chose en ayant fait en plus la somme de la première ligne et de la deuxième ligne. D'accord? Alors qu'est-ce que je trouve ici? Comme annoncé, dans le membre de droite, je vais trouver le travail virtuel de la force qui s'exerce au point A dans le mouvement virtuel de cette section, travail virtuel de la force qui s'exerce au point B dans le mouvement virtuel de la même section, et enfin, d'accord, le travail virtuel des forces réparties. Alors, ce membre de droite, c'est pas le travail virtuel des efforts extérieurs, c'est simplement, bien voir qu'il y a deux façons d'agir sur une poutre, d'accord, c'est les forces et les moments. Donc ça n'est qu'un bout du travail virtuel des efforts extérieurs. C'est extrêmement important de bien noter ça. Ça n'a pas en soi beaucoup d'intérêt. Ça ne représente pas quelque chose qu'on peut faire apparaître physiquement. Parce que physiquement, le travail virtuel des efforts extérieurs, il englobe les deux modalités d'action sur ma poutre, c'est-à-dire par les forces et par les moments. OK? Alors dans le membre de gauche, on trouve des trucs qui sont un peu attendus quand même, hein. Donc on voit en dualité, on va essayer de comprendre bien ça pendant cet amphi, hein, et puis il faudra le méditer évidemment au-delà de l'amphi. On voit apparaître quand même des choses qui sont pas forcément inattendues, hein. Quelque chose qui est homogène, enfin qui ressemble à une déformation, la dérivée d'un déplacement par rapport à un vecteur de position. On sait bien maintenant que epsilon, c'est la partie symétrique du gradient de xi. On a compris que pour calculer les déformations, il faut prendre des dérivées par rapport au vecteur de déplacement. C'est ce qu'on voit apparaître ici. Puis c'est moral que n qui est l'effort normal, c'est-à-dire selon la tangente, c'est la dérivée du déplacement tangent qui va apparaître. Et puis au contraire, l'effort tranchant, la dérivée du déplacement normal. Tout ça, c'est quand même pas totalement inattendu, d'accord. Dans la deuxième équation, dont je remonte, j'en étais ici, d'accord. Il y a un mélange, d'accord. Il y a un mélange. Ici, j'ai donc le travail virtuel des moments, le moment à extrémité amont, le moment à extrémité aval, et puis le moment réparti qui va travailler dans la rotation virtuelle θ' locale. MDS est un moment, il travaille dans la rotation θ' local, tout ça n'est pas du tout saugrenu, d'accord. Et donc, dans le membre de gauche, je vois pareil apparaître en dualité du moment la dérivée d'une rotation, c'est-à-dire en gros la rotation différentielle. Donc j'ai ma section droite, j'ai ma tranche d'épaisseur ds, d'accord, la matière contenue entre deux sections droites petit s plus ds, là-dedans il y a un certain moment, ok, ben, ce moment il va travailler dans la rotation relative dθ qui existe entre la section de gauche en petit s et la section de droite en s plus ds. C'est pas bizarre cette affaire. Puis il y a un terme ici qui est peut-être un petit peu plus difficile à interpréter, je ne vais pas m'enliser là-dedans. Je fais la somme des deux. Pourquoi je fais la somme des deux? Parce que je l'ai dit, ni le membre de droite de la première équation, ni le membre de gauche de la deuxième équation n'ont pour eux-mêmes un sens physique clair. D'accord? Ce sont que des bouts d'une entité qui, elle, est claire, qui est le travail virtuel des efforts extérieurs. Donc si je fais cette somme, je vois apparaître cet objet-là, qui est sur la dernière ligne, en ce qui concerne la somme des deux membres de droite. D'accord? Alors, j'ai ici utilisé des notations compactes. Je pense qu'elles sont connues pour tous ceux au moins qui ont étudié des cours de sciences industrielles. D'accord. Ici, je vais me retrouver avec le torseur au point A, dont les éléments de réduction sont RA et HA. Donc le torseur des actions extérieures en A. D'accord. Torseur des actions extérieures en B. Et ici, le torseur des actions réparties. D'accord. Alors c'est plus facile en fait de considérer ce T multiplié par des petits s, c'est le torseur dont les éléments de réduction au point s sont la force élémentaire FDS, le moment élémentaire MDS, d'accord? Et tous ces gens-là, travaillent en dualité dans les torseurs cinématiques, d'accord? Ce point, ici, on l'appelle parfois le co-moment, d'accord? Et vous savez, au moins pour les systèmes de corps rigides, d'accord, que pour calculer un travail, eh bien, on prend le co-moment entre le torseur des actions extérieures et le torseur cinématique. Au moins pour les mouvements de corps rigides, parce que pour les mouvements de corps rigides, évidemment, le déplacement, enfin, la vitesse en général, ou le déplacement, si je suis dans une transformation infinitésimale, est caractérisé par un torseur. OK? Donc, finalement, j'ai quelque chose de très moral quand je fais la somme de ces deux choses-là et que je peux écrire d'une manière assez compacte et pas inattendue parce que c'est familier pour vous, je pense, dans le cadre des cours de sciences industrielles qu'un travail, c'est un co-moment de torseur, torseur des efforts, torseur cinématique, ok. En revanche, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, c'est la ligne du dessus. Quand j'ai fait la ligne du dessus, je me retrouve forcément avec ce que je vais interpréter comme le travail virtuel de déformation, mes efforts intérieurs, N, V, M, travaillent tous les trois dans des grandeurs cinématiques virtuelles en dualité, d'accord? C'est pas bien difficile de comprendre, et on va clarifier ça dans un instant, le dx'T sur ds, le dθ' sur ds, mais ce qu'on constate, c'est que V, en fait, en toute généralité, l'effort tranchant, travaille dans la différence entre une quantité qu'on va interpréter dans une toute petite seconde et θ'. D'accord? Voilà. Donc, pour le moment, j'en dis pas beaucoup plus. Je vais donc énoncer le théorème des travaux virtuels. Avec ces expressions des entités en question, le théorème des travaux virtuels s'énonce exactement comme d'habitude. D'accord? Si je prends un champ d'effort intérieur en équilibre avec des actions extérieures, le travail virtuel des efforts extérieurs coïncide avec le travail virtuel de déformation. Donc on a exactement le même énoncé et on a précisé ce qu'on mettait sous ces trucs-là. Évidemment, les primes ici, ça veut encore dire, tout à l'heure je vais les enlever parce que je vais considérer des choses réelles. Pour le moment, c'est travaux virtuels des actions, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Voilà. Donc on va y revenir un tout petit peu plus tard, puisque j'ai évoqué tout à l'heure cette histoire de conditions de Navier-Bernoulli, et on va voir qu'elle simplifie beaucoup les choses au plan de l'expression de la dualisation des équations de la statique. Alors, on a dit que la cinématique, c'était un champ de déplacement, un champ de rotation, d'accord? Dans un premier temps, ici, je m'intéresse à la cinématique tel que défini par xi, c'est-à-dire que j'oublie complètement θ pour le moment. La seule chose qui m'intéresse, c'est que j'ai ma ligne directrice, et en tout point de ma ligne directrice, j'ai un mouvement qui est défini par le vecteur de translation. Et donc, ça va me donner la transformée de ma ligne directrice dans le champ de déplacement xi de la microstructure. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui, sur le plan mathématique, est parfaitement clair. Mais j'oublie complètement pour le moment, θ. Okay? Donc on s'intéresse au changement de géométrie d'un tronçon rectiligne, le voilà mon tronçon rectiligne, d'accord, dans le mouvement tel que défini par xi. Donc si je prends un élément, un, un tronçon élémentaire représenté par le vecteur dn0, ben je vais le retrouver dans la configuration déformée en dm, d'accord? Et comment je passe de dm0 à dm? Ben je vois qu'il faut faire moins que xi de s plus dm0 plus que xi de s plus ds. C'est-à-dire que c'est tout bête, il y a une relation de Schall très simple, hein, c'est que dm, c'est dm0, la configuration initiale, plus dxi, d'accord, c'est-à-dire la différentielle du déplacement entre l'origine et l'extrémité de mon vecteur dm0. Donc c'est tout bête, ok. Voilà. Bien sûr, hein, sur ce schéma, je note petit s et grand s les abscisses curvilignes dans les deux configurations. La dernière fois, on avait dit, quelqu'un dit non, mais vous aviez pas dit qu'on pouvait les confondre. Non. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour effectuer la statique d'un arc, d'accord, on va négliger le changement de géométrie. Ce qui revient, en fait, à argumenter les efforts intérieurs par grand S. Ici, je m'intéresse à un changement de géométrie. Donc, si je confonds grand S et petit S, je vais pas être capable de parler de changement de géométrie. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est juste ce petit dessin. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je trouve dm en ajoutant dm0 et dxi. Et avec ça, ben, je vais tout pouvoir dire. Je vais pouvoir dire quel est le changement de longueur de dm. Et ça, ça va me donner la notion de déformation longitudinale. D'accord? Et ensuite, je vais pouvoir dire combien il tourne. Tiens, tourne. Ça, c'est ce qu'on a fait lundi après-midi. Lundi après-midi, on s'est posé cette question. Quelle est la rotation de la tangente à la ligne directrice? Alors, bien sûr, c'était dans un contexte tridimensionnel, mais on voit bien que c'est de la même chose dont je suis en train de parler. D'accord? Donc là, je suis en train de m'intéresser au changement de longueur et au changement d'orientation du vecteur matériel représenté par dm0 dans la configuration initiale dans le mouvement défini par xi seulement. Voilà. Bon, alors ça va être vite fait. La déformation longitudinale, déjà, ben, c'est immédiat, d'accord. La longueur à l'arrivée, ben, c'est le d petit s. La longueur initiale, c'est le d grand s. Quel est le quotient d petit s sur d grand s? Ben, c'est facile à voir. On écrit la relation de Schall et on prend la norme. Donc là, je factorise. Bon, si vous voulez détailler le calcul, c'est pas dur. Hein. Dm0, c'est d grand s fois t. T est le vecteur unitaire de la configuration initiale, d'accord. Alors après, je prends la norme de chacun des membres de cette équation, d'accord. Donc je vais trouver ici, ben, la norme de dm, c'est des petits s, égale à ds fois la norme de ce gars-là, d'accord. Bon, ben là, pour calculer cette norme, je prends le carré scalaire, et ensuite j'en prends évidemment la racine carrée. Donc ben, je vais avoir un terme en t carré, ça vaut 1. Un terme en dxi sur ds au carré, ben, ça vaut rien, parce que je suis en transformation infinitésimale, donc c'est un terme du second ordre, et je vais bien sûr avoir le double produit de t scalaire dxi sur ds. D'accord? Alors pourquoi il n'y a pas de 2 ici? Ben parce qu'évidemment, après, je prends une racine carrée qui me multiplie tout ça par 1,5. Donc le développement limité au premier ordre de la dilatation, c'est le même concept que dilatation en 3D, d'accord? C'est-à-dire la longueur à l'arrivée divisée par la longueur au départ. Ben, la dilatation, c'est 1 plus quelque chose qui, évidemment, représente la déformation longitudinale, puisque si je termine le calcul, hein, si je dis qu'est-ce que c'est que ce truc, bah c'est des petits s moins des grands s sur des grands s, c'est bien la déformation longitudinale au sens des déformations linéarisées. Hein, il y a bien un truc dont il faut se souvenir dans la partie cinématique du cours, c'est de ce concept-là. Ok, voilà. Bah donc je vois comment calculer la déformation longitudinale d'un arc. Il faut prendre la dérivée du vecteur xi par rapport à s et projeter sur t. C'est comme ça qu'on va faire. Alors en plus, nous, c'est assez simple, parce que notre vecteur xi, d'accord, c'est un machin qui s'écrit xi t plus xi n. D'accord. Donc quand je vais prendre la dérivée de xi par rapport à s, bien sûr, je vais avoir un dxi t sur ds t, mais je vais devoir aussi écrire en toute rigueur un xi t dérivé de t par rapport à s, plus des choses, d'accord, relatives au même exercice sur le deuxième terme. Bah ça, c'est pas nul, en général. Ça, c'est même tellement pas nul que ça, c'est la normale, petit n, divisé par le rayon de courbure. Mais moi, justement, mon rayon de courbure, il est infini. parce que je travaille avec un tronçon rectiligne. Ça veut dire qu'évidemment, ça s'en va. Et donc, je peux garder que ce terme-là. Et de la même manière, quand je vais dériver celui-là, j'aurai juste un dxn sur ds fois n, parce que la dérivée de n par rapport à s, en toute généralité, c'est un vecteur qui est collinaire à t. C'est même moins t divisé par le rayon de courbure. Okay, donc, vous voyez à quoi me sert mon hypothèse de tronçon rectiligne. Elle me sert à éviter de rentrer dans ce genre de petites difficultés techniques qui sont vraiment pas insurmontables. Bon, si certains d'entre vous ont besoin de calculer des arcs, par exemple dans le projet élément fini deuxième partie, certains d'entre vous vont calculer des arcs en élément fini, d'accord. Des arcs qui sont de courbure de courbure finie. Et dans ces cas-là, il faudra demander aux collègues comment on fait. Parce que les formules que nous allons présenter ici ne seront pas applicables. Voilà. Donc en particulier, moi je prétends que la déformation longitudinale c'est d'excité sur ds, et ça c'est notoirement faux si le tronçon n'est pas rectiligne. Mais pour nous, à partir de maintenant jusqu'à la fin du cours, la déformation longitudinale c'est d'excité sur ds. Donc c'est extrêmement simple. Au passage, ça veut dire que je peux écrire mon vecteur d'excité sur ds comme indiqué ici. Il n'y a pas lieu de dériver les vecteurs T et N puisqu'ils sont constants sur un tronçon. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, de considérer un assemblage de tronçons rectilignes qui ne sont pas orientés tous selon la même direction. Voilà. Alors, j'ai vu la partie déformation longitudinale. Je regarde maintenant la partie rotation. La règle du jeu est rigoureusement la même, d'accord ? On veut passer, en fait, du vecteur T au vecteur taux, c'est-à-dire dans les deux cas, le vecteur unitaire tangent à la ligne directrice, mais respectivement dans la configuration bleue initiale, la configuration rouge déformée. Bon, je vous passe le calcul, il est immédiat. Il utilise à plusieurs reprises l'hypothèse de transformation infinitésimale. Qu'est-ce qu'on obtient quand on fait ça? On obtient que le vecteur taux, d'accord, qui est ici, vous pourrez regarder le détail, c'est immédiat, c'est le vecteur T plus quelque chose qui est collinaire à N, c'est-à-dire quelque chose qui est perpendiculaire, ça donne ça en fait. Voilà, je passe de T à taux dans le cadre d'un mouvement de rotation, d'accord, en rajoutant à T un vecteur perpendiculaire à T dont la longueur est dxn sur ds, d'accord. Alors évidemment, quelqu'un dit, mais votre taux là, il n'est pas unitaire, parce que moi je fais Pythagore. Bien sûr, vous faites Pythagore et vous voyez que ça fait intervenir dxn sur ds au carré. Donc ça fait zéro dans une théorie au premier ordre. Okay, donc mes vecteurs t et taux sont bien unitaires et je peux bien considérer une relation du type taux égale t plus dxn sur ds n comme un mouvement de rotation d'angle dxn sur ds. Alors là, j'ai mis θ. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que je vais écrire la condition de Navier-Bernoulli. Je vais dire à partir de maintenant que les mouvements qui vont m'intéresser, qu'ils soient réels ou virtuels, sont des mouvements qui respectent la condition de Navier-Bernoulli. Et à ce moment-là, ce que je trouve, d'accord, si je dis ça, si je dis que la section droite tourne comme la tangente, je viens de voir de quoi tourne la tangente. La tangente, elle tourne de dxn sur ds. Donc à partir de maintenant, si j'admets que le mouvement de rotation de la section droite coïncide avec le mouvement de rotation de la tangente, je peux calculer θ à partir du déplacement. Il n'est plus indépendant parce que j'ai prescrit cette chose-là et je trouve que θ est égal à dxn sur ds. D'accord ? Donc en fait, j'avais trois champs scalaires pour caractériser une cinématique plane, xn et θ. Maintenant, je n'ai plus besoin que de deux qui sont xt et xn. D'accord. Et donc ça va être quelque chose d'extrêmement important. On va faire un petit dessin, d'accord. Voilà mon arc. Donc voilà la configuration initiale en bleu. Voilà la configuration déformée avec le tronçon rouge ici. Localement, je vais avoir un rayon de courbure qui est l'inverse évidemment de ma courbure. Ma courbure, je la calcule comment? Je suis passé du bleu au rouge dans le cadre du déplacement normal xn, donc ma courbure, bien sûr, c'est, on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre des hypothèses, vous vous souvenez, j'avais dit si f' de x est très petit devant 1, on peut oublier le 1 plus f' carré à la puissance 3,5, là, il s'en va, on a qui égale f seconde, mais moi, f de x, ici, c'est xn, d'accord? C'est xn de s, donc je vais tout simplement avoir que qui, c'est la dérivée seconde de xn, D'accord? Ben, si c'est la dérivée seconde de xi n, c'est aussi la dérivée première de θ. Donc cette relation ici ne possède aucune généralité, d'accord? Elle n'est vraie que dans le cadre de l'hypothèse de Navier-Bernoulli. D'accord? Donc la courbure de l'arc que j'obtiens dans la transformation géométrique par xi, ça c'est xi n seconde, ça est toujours vrai, et ça devient dθ sur ds dans le cadre de l'hypothèse de Navier-Bernoulli, puisque θ, vous le savez, c'est quelque chose qui serait en toute généralité indépendant. Voilà. Donc on retient cette équation et celle-là qui vont être tout à fait importantes dans les calculs. Voilà. Un petit exemple pour fixer tout ça, le même que tout à l'heure. D'accord? Je rappelle ce qu'on avait trouvé pour ce qui concerne la statique. D'accord? Eh bien, si je réécris mes conditions limites cinématiques, on avait dit tout à l'heure, c'était xi x et xi y en 0 sont nuls et θ égale à 0, bah là, ça devient dx xi n sur ds égale à 0. Oui, mais xi n, c'est xi y, d'accord? Quant à ds, ben c'est dx, d'accord? Donc cette proposition s'écrit encore dx xi y sur dx en 0 est égal à 0, d'accord? Donc on voit qu'un encastrement prescrit les deux composantes du déplacement et la dérivée par rapport à x de la composante verticale. Voilà. Ici, une façon d'écrire la condition d'encastrement dans le cadre de la condition de Navier-Bernoulli. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir, comme je l'avais annoncé, à ma dualisation. Dans ma dualisation, j'ai réécrit ce qu'on avait dit tout à l'heure, j'avais vu apparaître un travail virtuel de déformation avec des choses un petit peu bizarres, notamment au niveau du travail virtuel de l'effort tranchant, d'accord? Eh ben maintenant, moi, ce que je demande, c'est que mon mouvement virtuel satisfasse la condition de Navier-Bernoulli. Donc ça veut dire que la rotation θ' dans le mouvement virtuel de la microstructure coïncide avec dxi'n sur ds. Ah ben ça va avoir la vertu de faire disparaître le terme du milieu. C'est-à-dire qu'en fait, que l'effort tranchant dans le cadre de la condition de Navier-Bernoulli pour un mouvement virtuel, mais bien sûr également pour le mouvement réel, s'il satisfait la condition de Navier-Bernoulli, ne travaille pas. Et ça, c'est un résultat physique extrêmement important qui peut surprendre et qui ne possède pas, en fait, de généralité. Il n'est valable que dans le cadre de la condition de Navier-Bernoulli. Donc, faut pas essayer d'aller chercher des explications physiques. C'est dans un cadre cinématique bien particulier, mais l'effort tranchant ne travaille pas. Okay? Mais c'est un cadre qui est très important puisqu'on a vu qu'il était en particulier pertinent pour décrire les structures massives. Ça, c'est le travail que nous avons fait lundi après-midi. Voilà. Donc, je peux énoncer le théorème des travaux virtuels sous une forme beaucoup plus simple où je vois apparaître en dualité de l'effort normal le dxi't sur ds. Ah ben ça, c'est rien d'autre que la déformation longitudinale virtuelle. Donc, en dualité de l'effort normal, d'une manière finalement très, très sympathique, je trouve la déformation longitudinale. Et en dualité du moment de flexion, je vais trouver quoi? dθ' sur ds, mais on vient de dire que dθ' sur ds, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai là, voilà. dθ sur ds, ou dθ' sur ds, c'est pareil, la description qui a été faite ici a été faite pour un mouvement absolument quelconque, c'est la courbure. Donc ce qu'on trouve, en fait, c'est que les grandeurs cinématiques dans lesquelles travaillent les efforts intérieurs N et M sont respectivement la déformation longitudinale et la courbure. Et en particulier, l'effort tranchant ne travaille pas. Voilà. On va même tirer de ça quelque chose d'extrêmement important pour le mouvement réel. Dans le cas du mouvement réel, je peux bien appliquer évidemment le résultat précédent au mouvement réel, je vais trouver le travail virtuel des efforts réels dans la cinématique réelle, le travail virtuel des efforts extérieurs ou des efforts intérieurs, d'accord? Ils sont bien sûr égaux, puisque c'est quelque chose qui est totalement général, d'accord? Sauf que le théorème de Clapeyron nous enseigne que l'énergie élastique qu'on fournit à une structure, d'accord, l'énergie mécanique qui coïncide avec l'énergie élastique lorsque je suis dans une évolution isotherme à partir de l'état naturel, d'accord, c'est la moitié du travail virtuel des efforts extérieurs réels dans la cinématique réelle. OK? Et ben donc je peux appliquer mon théorème des travaux virtuels et donner l'expression de l'énergie de ma structure. Donc je répète le cadre d'emploi, je pars d'une structure initialement dans l'état naturel, et je vais considérer une évolution isotherme de ma structure, bien sûr le comportement est élastique, ben dans ce cas-là, l'énergie mécanique qu'il faut donner à la structure pour atteindre une cinématique qui est décrite par Xité et Theta, d'accord, et ben vous l'avez sous les yeux, c'est l'intégrale, la moitié d'une intégrale qui représente le travail virtuel de déformation des efforts réels dans la cinématique réelle, décrite ici par la déformation longitudinale réelle et la courbure réelle. D'accord ? Alors, on peut écrire ça d'une manière encore plus mnémotechnique, je pense, hein, en faisant bien correspondre, une fois pour toutes, la déformation longitudinale, la dérivée du déplacement tangentiel, la courbure, la dérivée de la rotation. Voilà. Donc, ben maintenant, on a mis en place un certain nombre de résultats fondamentaux. On va concrétiser tout ça en valorisant le travail qu'on a fait lundi après-midi. On voit bien que les grandeurs qui sont en dualité sont N et Epsilon d'une part, M et Ki d'autre part. Et ben, on a appris lundi après-midi à écrire les relations qu'entretiennent ces quantités, au moins pour le cas d'une structure massive. Ça tombe bien, c'est le cas où la condition de Navier-Bernoulli s'applique. Ben alors, je vais simplement résumer le travail de lundi après-midi. Je prends une structure dont la ligne directrice coïncide avec l'axe des centres de gravité, sinon je vais vite avoir des ennuis. Et ce que je sais, c'est que la réponse intègre deux paramètres scalaires relatifs à la géométrie de la section droite, qui sont d'une part son R, grand S, et d'autre part le moment d'inertie par rapport à l'axe de flexion. D'accord, je ne reviens pas sur la définition de ces quantités, vous l'avez abondamment étudié. Les résultats sont les suivants. Si je fais une traction simple, ah ben, la déformation longitudinale, c'est juste N sur ES. ES, c'est donc qu'on va appeler notre rigidité en effort normal. D'accord. Et si, au contraire, je fais une expérience de flexion simple, d'accord, eh ben, la courbure que j'obtiens, c'est aussi la dérivée de la rotation entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite, d'accord, eh bien, c'est M sur EIZ. Et EIZ, ça représente donc la rigidité de flexion. Ben voilà. J'ai tout. Bien sûr, on a d'une part à gauche la traction simple, d'autre part à gauche la flexion simple. On peut les superposer, on obtient une flexion composée et ça marche toujours en vertu du théorème de superposition. D'accord ? Mais maintenant, je suis capable de revenir à l'équation précédente et de dire « Ah mais N, en fait, je sais ce que c'est ES epsilon. Et puis M, je sais ce que c'est EIKI. Et donc je peux écrire mon énergie sous la forme de l'intégrale d'une densité quadratique par rapport à epsilon et Ki. D'accord ? Première façon de procéder. Ou au contraire, j'élimine epsilon et qui. D'accord ? Et je dis, bah, epsilon c'est N sur ES, qui c'est M sur EI. Et cette fois-ci, j'obtiens une intégrale en fonction d'une densité quadratique par rapport à N et M. Donc j'ai deux possibilités qui me sont offertes selon le principe variationnel, au sens qu'on a décliné en 3D, selon le principe variationnel que j'ai envie de mettre en œuvre. Je vais raconter ça dans un tout petit instant. D'accord ? Donc, synthétisons cette chose-là. J'ai choisi ici d'exprimer ma densité d'énergie par rapport à N et M, mais bien sûr, vous devriez rajouter ici, à droite, la quantité, la même expression, la même valeur numérique, mais maintenant argumentée par rapport à la déformation longitudinale et la courbure. OK ? Attention à bien noter le cadre d'emploi, il faut que l'état initial soit naturel. Si l'état initial est précontraint, il y a des termes complémentaires à prendre en compte. Voilà. Alors maintenant, on va synthétiser un tout petit peu cette affaire-là, en voyant sur un exemple que ça y est. On a, en fait, si je reviens à ma problématique, on s'était dit, la première étape, c'est de définir la transformation géométrique. Une fois qu'on aura défini la transformation géométrique, on s'intéressera à la transformation géométrique au niveau local. Ben, ça y est, on vient de le faire. La transformation géométrique au niveau local, c'est ça. C'est calculer epsilon et la courbure, ou des θ sur ds, c'est pareil dans le cas de la condition de Navier-Bernoulli, en fonction du chargement appliqué. On avait dit que c'est gamma, on a vu ici que ça devient N et M. Au passage, V n'intervient pas dans les débats, on sait expliquer pourquoi. D'accord ? Bon, donc puisqu'on a fait ça, maintenant il reste à procéder à un calcul d'intégration. D'accord ? Je sais décrire la cinématique locale, ben, si je sais décrire la cinématique locale partout, normalement je dois être capable de prévoir la transformation géométrique. Ben, la réponse est, c'est vrai. Et on va le faire sur le même petit exemple que je traîne depuis le début. Mes efforts intérieurs sont là. Je vais écrire mes conditions limites, bien sûr. Je n'y reviens pas. Et je vais écrire mes deux équations d'état. Alors, première équation d'état, le epsilon n'est pas joli, là. La première équation d'état, c'est que la déformation longitudinale, c'est dx si t sur ds. Alors, si t, c'est quoi? Eh ben, t, c'est x. OK? Et puis ds, c'est dx. Bon, donc ça devient un dx sur dx. Si epsilon, c'est dxx sur dx, il est nul ici, puisque l'effort normal est nul. Donc, ça veut dire que xi, c'est une constante. Oui, mais cette constante, elle vaut 0, d'après la condition aux limites à l'encastrement. Donc, en fait, xx égale à 0. Donc, ce que vous observez, c'est que dans le cadre, évidemment, des transformations infinitésimales, si je mets une force verticale à l'extrémité, les sections droites se déplacent verticalement. Quelqu'un dit, ça va tomber. Oui. On est en transformation infinitésimale. C'est pour ça qu'on trouve ce résultat un petit peu surprenant, que les sections droites se déplacent d'une manière purement verticale. Il n'y a pas de déplacement horizontal dans le cadre d'un calcul au premier ordre. La deuxième équation d'état maintenant, d'accord ? La deuxième équation d'état qui est ici, plus exactement qui est ici, mon dθ sur ds, c'est-à-dire un dθ sur dx, ok, est égal à m sur ui. F facteur de x moins l sur i. Je vais intégrer, je vais trouver l'expression de θ de x. Bien sûr, pour ça, j'ai besoin d'une constante d'intégration. Je vais la chercher au niveau de l'encastrement. D'accord? Et ça me donne l'expression donc de θ, c'est-à-dire en tout point, l'angle que forme la tangente. Alors, comme prévu, évidemment, il est négatif. D'accord? L'angle que forme la tangente par rapport à la direction initiale. OK? Et puis, ensuite, je me souviens que en fait θ c'est dxn sur ds, ça c'est la condition de Navier-Bernoulli, et par intégration de θ, je vais donc trouver la valeur de xn. Et là voilà. Donc ce que je trouve finalement, c'est que la transformée de mon arc initialement rectiligne est une cubique, d'accord? Évidemment, les caractéristiques de cette cubique sont proportionnelles à la force F, d'accord, puisque je suis dans une théorie linéaire et je vois apparaître le seul paramètre dont j'ai besoin pour faire le calcul, qui est la rigidité de flexion, c'est-à-dire la quantité EI, qui au passage s'exprime en newton mètre carré, hein, E c'est des pascals, I c'est une longueur à la puissance 4. Voilà. Alors ce qu'on vient de faire dans un cas évidemment particulier possède une grande généralité, d'accord. Dans le cas d'un problème, ici ma structure était isostatique, hein, c'était très simple, j'avais été capable de déterminer les efforts intérieurs de façon explicite en fonction du chargement extérieur, d'accord. Quand je serai dans une situation hyperstatique, c'est-à-dire dans le cas général, je sais que l'espace des solutions est un espace affine de dimension P, c'est-à-dire que N, V et M vont dépendre linéairement d'un PUplet d'inconnu que je note ici grand Y indice K. Quand S, c'est toujours bien sûr mon abscisse curviligne dans la configuration initiale, je note que je fais ma statique dans la configuration initiale. D'accord ? Maintenant, deuxième étape, je fais juste ce que je viens de faire sur mon exemple, hein. Deuxième étape, j'écris les équations d'état. Les équations d'état, alors tronçon par tronçon, parce que j'ai peut-être plusieurs tronçons, d'accord? Mais tronçon par tronçon, d'accord? Je vais écrire l'équation qui concerne la déformation longitudinale, donc le epsilon égale n sur es, et l'équation qui concerne la courbure, d'accord? Ma courbure est égale à m sur ei, d'accord? Je vais intégrer ces deux équations qui sont extrêmement simples, donc, d'accord? Et je vois que dans l'intégration, puisque j'ai une dérivée première et une dérivée seconde, je vais voir apparaître trois constantes d'intégration. C'est un petit peu normal, cette affaire-là, parce que si je prends le cas particulier d'un arc simple, donc un tronçon rectiligne, si je veux fixer dans l'espace un tronçon rectiligne, il va falloir que je neutralise un mouvement de corps rigide dans le plan. C'est-à-dire que je vais devoir me donner trois conditions. D'accord? Ces trois conditions, d'accord, vont être mises à profit pour déterminer les constantes d'intégration de ces deux équations différentielles. D'accord? Mais en général, je reste évidemment avec mes inconnus hyperstatiques. Je n'ai toujours pas calculé. Alors, comment je vais faire? On va prendre un exemple, hein. On va pas faire le calcul, mais on va dire comment il faudrait faire. Voilà, par exemple, une situation. Voilà, je sais pas ce que je fais. Je mets par exemple une force comme ceci. D'accord? Et puis, j'oriente de la gauche vers la droite. D'accord? Ça, c'est évidemment un système qui est hyperstatique de degré. Vous faites le petit calcul avec moi. De degré 3. D'accord? Parce que si je me donne ici un certain grand X, un certain grand Y qui vont représenter les composantes horizontales et verticales de la réaction d'appui, puis un certain Z qui va représenter le moment d'encastrement, ben vous voyez que je vais être capable d'expliciter complètement les efforts intérieurs. D'accord. Et puis il n'y a pas de moyen de déterminer X, Y et Z par les équations de la statique, c'est-à-dire que dans ce cas particulier, eh ben, les solutions des équations de la statique forment un espace affine de dimension 3. Alors je vais utiliser les trois conditions cinématiques de l'encastrement pour déterminer les constantes d'intégration de mes deux équations différentielles, d'accord. Ok. Et puis je me retrouve avec l'expression donc de xi t et de xi n, mais en fonction des inconnus x, y et z. Alors, on va pas faire de grande théorie, mais vous voyez que si j'introduis une inconnue hyperstatique grand X, c'est parce que j'interdis le déplacement horizontal. Si j'introduis une inconnue hyperstatique grand Y, c'est parce que j'ai interdit le déplacement vertical. Et enfin, si j'introduis une inconnue hyperstatique pour le moment, c'est parce que j'interdis la rotation. Donc, en fait, j'ai autant de conditions cinématiques supplémentaires que j'ai introduit d'inconnu hyperstatique. Et donc, je vais écrire les trois conditions cinématiques que je viens d'évoquer et ça va me donner un système qui va me permettre de déterminer X, Y et Z sans difficulté. Ce que je suis en train de raconter là, hein, c'est que ben, finalement, tout à la différence des systèmes tridimensionnels, de ce qu'on a fait en élasticité linéaire pour le milieu continu tridimensionnel, eh bien, nous avons ici une méthode qui nous permet, au moins théoriquement, de résoudre de manière exacte n'importe quel problème de structure unidimensionnelle. Dans le cadre d'études que je me suis donné ici, bien sûr, arc-plan chargé dans leur plan, conditions d'avis Bernoulli, etc. D'accord? Donc on a ici, vous voyez bien qu'on a une méthode. Alors, quand on fait des calculs, on se rend vite, c'est très calculatoire, mais c'est pas ça la question. Sur le plan théorique, nous disposons d'une méthode qui nous permet de trouver la solution exacte. C'est-à-dire aussi bien pour les efforts intérieurs que pour la transformation géométrique, et vous doutez donc de l'extraordinaire popularité que peut avoir une théorie aussi facile à mettre en œuvre. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est la méthode de résolution directe. Ben, il y a évidemment une méthode de résolution variationnelle du même type, enfin, dans la même, pour les mêmes raisons que quand mécanique des milieux tridimensionnels, on peut avoir envie d'aborder la résolution, non pas par une méthode directe, qui consiste à intégrer les équations d'état compte tenu des équations de l'équilibre, d'accord, mais d'utiliser des techniques énergétiques. D'accord. Alors, celle à laquelle on pense spontanément, bah, dans le droit fil de ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire le principe du minimum de l'énergie potentielle, est une méthode énergétique qui va consister à rechercher la solution en déplacement. Ben, il se trouve ici, alors c'est faisable et c'est même extrêmement intéressant, d'accord. Mais il se trouve ici que sur le plan analytique, c'est pas forcément la méthode la plus habile. Sur le plan numérique, ça va pouvoir être traité, notamment dans le cadre de la méthode des éléments finis. Vous pourrez vous entraîner à résoudre ce genre de choses avec le logiciel d'éléments finis que vous pratiquez dans le cadre du projet. D'accord. Les éléments finis, d'ailleurs, seront un petit peu... Bon, quelle est l'idée, hein? L'idée, c'est qu'il faut expliciter, ben, comme dans le principe du minimum l'énergie potentielle en 3D, il faut expliciter l'énergie élastique, fonction de la transformation géométrique, et il faut expliciter le travail des efforts donnés. Aucune difficulté. D'accord. Bon, pour ce qui est de l'énergie élastique exprimée en fonction des grandeurs cinématiques, là encore, aucune difficulté. Je reviens un petit peu en arrière. C'est évidemment pas ça qu'il faut utiliser. Il faut revenir ici. Et puis ici, il faut remplacer n par, comme on l'a dit tout à l'heure, EI epsilon, ES epsilon et m par EI qui, et on va se retrouver avec une forme quadratique en epsilon 2 qui 2. D'accord? Et ça, après, il faut l'interpoler. C'est assez intéressant d'ailleurs de regarder ça. On aura sans doute l'occasion de regarder ça dans certaines petites classes. D'accord? On va voir que les éléments finis qu'on utilise dans ce cas-là sont pas des éléments finis lagrangiens, c'est-à-dire basés sur des notions de fonction de forme. On appelle ça des éléments finis hermitiens. C'est un peu plus subtil parce que au nœud, on se donne des informations, non seulement on se donne des degrés de liberté relatifs au déplacement et à la rotation. C'est assez joli. D'accord? Donc voilà une méthode qui peut être mise en œuvre pour résoudre numériquement par une voie variationnelle, un problème de milieu curviligne élastique. Encore une fois, sur le plan analytique, c'est beaucoup plus technique et c'est pas la bonne idée. En revanche, il y a une méthode énergétique qu'on n'a pas mise en œuvre dans le cadre du milieu continu tridimensionnel qui est basé sur les efforts et qu'on verra juste après les vacances de Noël à la rentrée, d'accord, et qui s'énonce de la manière suivante, en fait. Eh bien, le champ d'effort intérieur qui réalise la solution d'un problème minimise une certaine fonctionnelle énergétique qui est bâtie exactement comme l'énergie potentielle, avec un terme d'énergie élastique et un terme qu'on appelle le travail dans les déplacements donnés. Et je vais donner ici, sans aucune démonstration, l'énoncé de ce théorème, et on va voir qu'il est extraordinairement performant dans le cadre des structures, à cause de la simplicité de l'espace des champs d'effort intérieur statiquement admissible. Donc c'est ça que je raconte maintenant, et ce avec quoi je vais finir cet amphi. L'idée est la suivante. L'idée, c'est que, regardez pas tout ce bazar, d'accord? L'idée, c'est que je suis à la tête d'une structure dans laquelle les conditions cinématiques vont être de type homogène. Ça veut dire, homogène en mathématiques, ça veut dire que si je me donne une condition, c'est du type égal à zéro. D'accord? Donc, ça veut dire que si je me donne un déplacement, il doit être nul. Si je me donne une rotation, elle doit être nulle. OK? Donc, par exemple, ça marche. Un encastrement, ça marche. Je me donne un déplacement, il vaut zéro. Ça marche. Un appui fixe articulé. Quelqu'un dit, mais non, ça marche pas, ça tourne. Oui, ça tourne, mais la donnée ne porte pas sur la rotation, justement. La donnée porte sur le déplacement et c'est bien une donnée du type égal à zéro. Donc, si je m'intéresse à des structures dont les données cinématiques sont homogènes, égales à zéro, si vous préférez, d'accord. Alors on a un résultat qui est magnifique et qui est le suivant, c'est que parmi tous les champs d'effort intérieur en équilibre avec le chargement, c'est tout ce fatra là, hein, l'équilibre avec le chargement, on ne va pas détailler ça, en équilibre avec le chargement, d'accord, eh bien la solution, d'accord, dans quoi, dans quel espace? Eh bien dans un espace de dimension finie, puisqu'on a vu que l'espace des solutions statique est un espace affine dont la dimension est égale au degré d'hyperstaticité. Et ben la solution dans cet espace affine de dimension finie minimise l'énergie élastique dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'intégrale de la densité que j'ai déjà fait apparaître. Alors pourquoi c'est simple ça? Ben c'est simple précisément parce que tout à la différence du milieu continu tridimensionnel, je sais explorer de manière exhaustive l'espace des champs d'effort intérieur en équilibre avec le chargement, puisque j'en connais une base, puisque c'est un espace de dimension finie. Donc, par ce procédé aussi, je suis assuré de trouver la solution de manière exacte. Alors, on va regarder un exemple pour se convaincre que c'est très très simple. Donc, je prends ici une structure avec une partie en porte-à-faux sur laquelle je mets une force verticale. Bon, l'appui mobile que j'ai placé à mi-travée, eh ben, il va exercer bien logiquement une réaction inconnue selon la direction verticale d'intensité grand Y, d'accord? Et je pourrais pas la déterminer par les conditions de l'équilibre. Donc voici l'espace des solutions, hein, selon que je suis au-delà de l'appui ou en deçà de l'appui, je vais avoir les efforts intérieurs que vous pouvez calculer quasiment de tête en même temps que moi, hein. Ici, je ne vois que la force F, donc voilà le moment de flexion qu'elle induit, voilà l'effort tranchant, l'effort normal est évidemment nul, et puis si au contraire je suis à gauche de l'appui, je vais tenir compte du moment de Y, il est ici, c'est Y facteur de L sur 2 moins X, et je vais devoir tenir compte du moment de F comme précédemment, d'accord, il n'a pas changé de but tout à l'heure. Voilà, donc je suis capable d'expliciter l'effort normal, ici il est tout le temps nul, d'accord, donc quand je vais aller dans l'énergie, il ne va pas y avoir d'énergie d'effort normal, ok, et puis il va y avoir au contraire un terme d'énergie de flexion qui va être représenté par l'intégrale de M carré sur 2iz, avec les expressions de M que nous avons ici de part et d'autre selon qu'on est plus grand ou plus petit que L sur 2. Et donc ça veut dire qu'il suffit de calculer deux intégrales de M carré. Faut calculer l'intégrale de M carré entre L sur 2 et L. L'intégrale de ce bazar ici entre 0 et L sur 2, c'est immédiat et ça donne ça. Ça donne cette expression. Alors il y a un petit peu de calcul bien sûr, mais c'est immédiat. Et ça me donne un polynôme du second degré en grand Y. Pourquoi c'était obligatoirement un polynôme du second degré en grand Y? Parce que j'ai dit que l'espace des solutions est un espace affine. Donc, les inconnues hyperstatiques sont les coordonnées dans cet espace. D'accord? Et évidemment, mon champ d'effort intérieur dépend linéairement de ces coordonnées, ça va de soi. Or, moi, je prends le carré de cette quantité. Donc, ben, le carré de M ou le carré de N, ça va toujours me donner des choses quadratiques par rapport aux inconnus hyperstatiques. OK? Voilà. Donc, j'en ai ici un exemple. L'énergie élastique de ma structure s'exprime comme une forme quadratique qui fait intervenir l'action donnée, grand F, et l'action inconnue, grand Y. Et la détermination de grand Y est réalisée ici de manière variationnelle en disant que la solution minimise W parmi toutes les solutions. Donc tout simplement en dérivant par rapport à grand Y. Donc je dérive gentiment W par rapport à grand Y et je trouve 5 demi de F. Et je n'ai à aucun moment des débats évoqué la transformée géométrique de ma structure. Alors évidemment, je ne l'ai pas évoqué, du coup, je ne l'ai pas. Okay, mais j'ai pu trouver, si c'est ça qui m'intéresse, j'ai pu trouver l'effort intérieur inconnu exercé par l'appui à mitravé sur ma poutre, c'est-à-dire mon inconnu hyperstatique, sans avoir eu besoin d'évoquer la transformation géométrique. Okay. En revanche, il fallait que je m'assure d'être bien dans les conditions d'emploi, c'est-à-dire que les conditions cinématiques sont homogènes. C'est bien le cas, d'accord ? Puisque ici, je dis que le déplacement vertical au niveau de cet appui doit être nul. C'est même ça qui induit l'existence d'une inconnue hyperstatique. Et ici, j'ai un encastrement qui est évidemment la source de données cinématiques homogènes. Mais maintenant que j'ai déterminé grand Y, si ça me chante, je peux revenir, puisque je connais complètement les efforts intérieurs maintenant, je reprends dxit sur ds égale n sur es, d2xn sur ds2 égale m sur i, j'intègre, et puis je trouverai, avec mes conditions aux limites à l'encastrement et au niveau de mon appui, je trouverai bien sûr les valeurs dxit et dxn. Donc je pourrai déterminer la transformation géométrique maintenant que les efforts intérieurs ont été déterminés. Voilà, un tout petit peu de généralité. Dans le cas d'une structure quelconque, les solutions, j'ai mis des primes ici pour dire que c'est les solutions possibles des équations de la statique font, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un espace affine de dimension P. Donc M', V' et N' vont dépendre linéairement d'un PUplay Y1, YP. D'accord ? Et donc l'énergie qui, elle, vous avez bien retenu cela, ne dépend que du moment et de l'effort normal, à l'exclusion de l'effort tranchant dans le cadre de l'hypothèse Navier-Van-Hooy, va se retrouver être un bête polynôme du second degré par rapport aux YK. D'accord ? Et on va minimiser ce polynôme sans contrainte. D'accord ? Parce qu'on va le minimiser sur la totalité de l'espace affine des solutions. Donc on va minimiser un polynôme du second degré par rapport à un PUplay, c'est évident. Ça va donc me donner... Quand je dérive quelque chose du second degré par rapport à une variable, ça me donne quelque chose du premier degré. Donc je vais trouver P équation. P c'est quoi? C'est le degré d'hyperstaticité. Autant d'équations que d'inconnus hyperstatiques qui vont toutes s'écrire sous la forme d rond P sur d rond YK égale à 0. J'ai donc ramené la résolution d'un problème totalement général, sur une structure totalement générale, à la résolution d'un système de P équations à P inconnues linéaires. Et donc, un petit peu comme ce que nous avions fait dans le cadre cinématique de la mise en œuvre du principe du minimum de l'énergie potentielle, on ramène un problème de mécanique à un problème d'algèbre linéaire très simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage aussi à tous pour les petits examens que vous allez avoir aujourd'hui pour... les uns et les autres. Voilà, il nous reste, vous avez un petit quart d'heure avant de rejoindre les collègues dans les petites classes.